Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour. L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous pouvez écouter sur le site internet www.rdwa.fr. Au studio, aujourd'hui, nous sommes avec Vincent, bonjour.
Salut.
Et Christophe, bonjour.
Bonjour.
Tous les deux, vous êtes là pour nous parler de la prochaine fête paysanne qui va se dérouler le samedi 7 septembre. Et ça se passera à Bonlieu-sur-Roubion et à partir de 14h. Alors une fête paysanne sous la tutelle de la Confédération paysanne.
Oui, tout à fait. Donc la Confédération paysanne organise chaque année une fête. De manière à ouvrir un peu sur le public, que les gens puissent venir découvrir à la fois les luttes qu'on peut mener, les paysans du département, parce que c'est une fête départementale, et aussi profiter d'un petit marché de producteurs, profiter de concerts, de jeux, d'animations. On va passer quelques films, ça sera une après-midi et une soirée conviviale.
Et Christophe, pareil, donc toi tu es agriculteur aussi et tu es maraîcher hein, en particulier.
Alors, notamment, ouais. Donc je suis maraîcher et éleveur, j'ai des brebis mérinos avec ma compagne, on est installé à Glandage. Voilà. Et je suis membre de la Confédération paysanne. Donc, comme Vincent, là, on fait partie du comité départemental. Donc, la petite équipe, on est une bonne dizaine de personnes. Voilà, gérer un peu le quotidien du syndicat.
Bonlieu-sur-Roubion, c'est une ferme aussi qui sera le site, donc.
Ouais, donc ça se passe sur une ferme d'adhérents en fait de la Confédération paysanne, qui ont la gentillesse d'accueillir cette grande fête. Et on peut dire qu'ils sont en maraîchage et...
Production d'ail et de fourrage. Ouais. Et de topinambour.
Ce festival tourne à travers la Drôme.
Oui et non. C'est qu'il a été longtemps à Mirabel et Blacon, sur une ferme. Et ça fait peut-être 7-8 ans maintenant, je ne sais plus exactement, qu'on a décidé de changer de lieu et de tourner pour aussi toucher différents, vu que la Drôme c'est un département assez vaste, d'essayer de se déplacer pour pouvoir, que les gens puissent s'y rendre quand ils sont loin une année, que l'année d'après ils le soient moins. Et ce qu'on essaie de faire, c'est de faire 2 ans de suite au même endroit pour profiter de l'expérience de la première fois, pour alléger un peu l'organisation qui est quand même... c'est un moment un peu intense avec pas mal de choses à faire. Donc on essaie de profiter de l'expérience en faisant 2 ans de suite sur le même lieu.
Ça commence à 14h avec certainement des animations autour de l'agriculture, de la paysannerie.
Oui, il y aura certainement pas mal de débats sur tous les sujets qui concernent la Confédération paysanne et donc le monde paysan, l'agriculture en général. C'est une occasion pour les gens qui se posent des questions sur qu'est-ce que l'agriculture aujourd'hui et qu'est-ce que potentiellement elle peut et veut devenir, de venir échanger avec des producteurs, de venir échanger aussi avec des intervenants qui seront plus spécialisés dans certains sujets et qui seront là pour animer un peu les débats.
Oui, excuse-moi. Aussi, à noter que, qui correspond à une des caractéristiques de la conf, c'est qu'il y a plusieurs stands associatifs qui seront présents aussi. Parce que la conf, elle s'inscrit, c'est pas un syndicat purement corporatiste qui défend l'agriculture dans son domaine, mais qui s'inscrit plus largement dans un projet de société aussi. Voilà, on inscrit notre projet d'agriculture paysanne dans des débats plus larges, des débats de société. Et donc c'est pour ça qu'on invite aussi d'autres organisations à être présents et parler de ce qu'ils font, parce qu'on considère qu'on s'inscrit un peu dans la même démarche, chacun dans nos domaines.
Et c'est pour ça que je parlais de stands ou d'animations en après-midi. À ma connaissance, j'en avais assisté à une qui avait lieu à Chapia. On pouvait y trouver toute une série d'associations, hein, même mondialement connues, comme ATTAC. Qu'est-ce qu'il y avait ? La Confédération Paysanne. Et puis des associations, des structures, comme vous dites, plutôt vouées à l'environnement ou à la production raisonnée. Et... les débats que vous aborderez ont des thématiques arrêtées là pour l'instant.
Donc cette année, le thème sera « Interrogeons la relation des sociétés humaines avec l'animal ». Et il se trouve que ces derniers temps, il a beaucoup été question justement de l'élevage, des conditions d'élevage... et c'est un thème dont on pense qu'on doit s'emparer au niveau de la Confédération Paysanne, de manière à peut-être clarifier un peu certaines choses, que ce soit dans le sens de qu'est-ce que ça représente un élevage à l'échelle paysanne, de bien faire la différence avec les élevages industriels qui souvent servent de référence au grand public. Quand on leur désigne les abus de l'élevage, et justement peut-être aussi de faire passer certains messages qu'on pourrait avoir par rapport à la pression que les petits élevages subissent du fait de l'omniprésence dans les réglementations des méthodes industrielles.
Les contraintes d'ordre d'élevage et de normes aussi qui émanent soit au niveau national ou au niveau européen. Est-ce que toutes ces choses-là, comme on dit, nul n'est censé ignorer la loi. Est-ce que vous avez cette impression de connaître un peu la loi au niveau de l'agriculture actuelle ?
Ouais, quand même, on a un bon niveau d'information et le syndicat sert entre autres à ça aussi. C'est-à-dire que individuellement, c'est quasiment impossible de connaître l'ensemble des réglementations qui s'appliquent au monde paysan. Enfin, notamment parce qu'elles s'appliquent, c'est plutôt dans des logiques, enfin, pas systématiquement, mais beaucoup d'entre elles sont liées à des logiques industrielles dont on est loin, mais par contre, on obéit aux mêmes réglementations. Donc voilà, le rôle du syndicat, c'est aussi ça, c'est d'informer ses adhérents et les paysans de manière générale des évolutions de la réglementation, de leur mise en œuvre, de aussi comment on peut réagir par rapport à ces réglementations quand on considère qu'elles ne sont pas adaptées à nos fermes, ce qui est quand même assez fréquent. Et voilà, ce qui est d'autant plus important que plus ça va, plus les réglementations sont issues de règlements de niveau européen. Et donc, il y a vraiment de quoi s'y perdre. Donc oui, il y a un gros boulot d'information et d'accompagnement aussi des paysans à comprendre ça, pas forcément à les accepter. Et justement, quand on considère qu'elles ne sont pas adaptées à ce moment-là à amener la réflexion nécessaire et les actions si besoin pour faire changer les choses.
Donc cette fête paysanne est l'occasion aussi de ces échanges autour de ces thématiques.
Oui, c'est ça. C'est, donc, comme disait Vincent, là, chaque année, on a un thème spécifique pour lequel on invite en général des intervenants un peu plus spécialisés sur la question. Donc là, en l'occurrence, il y a le secrétaire national de la CONF, donc voilà, bon, au niveau national, qui sera présent, qui est éleveur dans le Jura, donc qui connaît bien la question et qui était en charge de ces dossiers autour de l'élevage. Une éleveuse aussi d'Ardèche qui sera présente. Et après, voilà, il y a énormément d'échanges sur l'agriculture en général, en off aussi.
Alors, vous parliez de l'élevage, les conditions que vous reprochez, on peut le comprendre au niveau de l'industrie, c'est-à-dire l'intensification de, et voire même de concentration d'animaux, hein, comme la ferme des 1000 vaches, par exemple. Toutes ces choses-là, on peut comprendre que vous n'y adhérez pas. Mais vous, en tant que petit producteur, vous avez un cheptel autour de combien de bêtes, en général, pour le mode paysan ?
Alors, en ce qui me concerne, moi, j'ai 200 poules pondeuses. Ce qui peut paraître beaucoup à une échelle profane, quoi, on va dire. Mais 200 poules pondeuses bio, le bâtiment dans l'industrie de l'œuf bio, c'est en général des bâtiments de 3000 poules qu'on peut ensuite démultiplier. Jusqu'à les plus gros que je connaisse dans la région, d'après ce que je sais, sont à 24 000, donc 8 fois 3 000 poules dans un bâtiment sectorisé ensuite. Et les poules, c'est un assez bon exemple parce que pendant longtemps, il y a eu un secteur industriel très développé d'élevage en batterie. Les gens mangeaient des œufs sans forcément se poser la question s'ils étaient bons ou mauvais. Si... Voilà. Maintenant, il commence à y avoir un peu plus de réflexion là-dessus. Mais même un œuf bio, on va dire industriel, entre guillemets, enfin, je ne sais pas s'il faut mettre des guillemets ou pas, il va rentrer dans un cahier des charges avec des normes qui tiendront pas forcément entièrement compte du bien-être animal, qui tiendront pas forcément entièrement compte de la qualité gustative des œufs. Et il y a tout un tas de facteurs qui font que l'industrie a tendance à faire pression sur la norme de manière à pouvoir mettre une étiquette AB ou la petite feuille européenne sur ces boîtes, tout en gardant ces processus d'élevage, de conditionnement, de vente des œufs. Et pour moi, après ça peut se discuter, pour moi, les réglementations qui principalement traitent d'hygiène, hein, on va dire, les réglementations d'hygiène à l'échelle européenne, sont adaptés pour des élevages de grande taille, mais très souvent complètement rédhibitoires à la création de nouveaux petits élevages. Voilà.
Et toi, Christophe, tu es maraîcher, mais ouais. Tu as peut-être connaissance aussi d'autres expériences de collègues ?
Déjà la mienne au niveau des brebis. Moi, j'ai une centaine de brebis, une centaine de mères. J'ai aussi deux mulets, des chiens. Et voilà, tu parlais de la taille des élevages. Nous, en élevage ovin, on fait partie des petits troupeaux, alors, qui s'expliquent d'une part parce qu'on a aussi du maraîchage, donc la part de revenus forcément est moins importante du côté de l'élevage ovin. Mais voilà, c'est vraiment un petit troupeau. Après, c'est dur la question de la taille, elle est toujours à mettre en rapport avec d'autres éléments, quoi. Ça dépend aussi dans quel espace on se trouve, si on fait du pastoralisme, si les bêtes sont en bâtiment. Enfin, il y a un tas de facteurs. Et ce qui va nous paraître gros dans la Drôme ou en Ardèche sera petit pour des régions de l'Ouest qui sont en vaches laitières. Enfin, voilà, c'est toujours à mettre en perspective avec le contexte agricole où on est. Pour nous, mais pour nous, les critères, ils sont plus sur des questions de bien-être animal, d'être dans des logiques qui ne soient pas des logiques industrielles, c'est-à-dire de maîtrise de l'ensemble de, ou en tout cas d'un maximum des paramètres de notre élevage. Enfin, c'est plus complexe que la seule question du nombre.
De toute manière, vous êtes au-delà des normes dites bio européennes ou nationales. Dans votre travail, je suppose, vous n'êtes pas tenu d'une superficie pour tel nombre d'animaux. Vous êtes dans la nature, on pourrait dire.
Pour ce qui est de mes poules, effectivement, on peut dire, je crois que je suis au-delà de la norme. C'est-à-dire que il y a une norme de parc, en fait. C'est assez typique de comment dire. Des fois, les réglementations vont donner telle surface. Par exemple, c'est 4 mètres carrés par poule. Il se trouve que les miennes ont presque 10 mètres carrés de parc. Mais une poule, elle pourrait avoir 100 mètres carrés de parc pour elle. Du moment que le parc, il n'est pas arboré ou qu'il n'y a pas des broussailles, elle ne va pas en profiter parce qu'elle ne va pas aller dans des espaces découverts. Les poules ont peur des rapaces, c'est un de leurs prédateurs les plus importants, les prédateurs naturels. Et elles vont rester en général à portée du poulailler de manière à pouvoir se mettre à l'abri à la première alerte. Alors que s'il y a des broussailles, s'il y a des arbres, là, les poules vont profiter beaucoup mieux de leur parc. Donc, pour ce qui est de mes poulaillers, j'en ai deux. Je les ai installés dans une ancienne friche, donc il y a énormément de broussailles. Et là, elles peuvent aller picorer dans l'ensemble du parc. Mais la norme, elle ne fixe aucune contrainte en ce qui concerne la végétation dans le parc. On peut mettre des poules sur un espace nu, même sans herbe. Ça va pas être hors réglementation.
Et puis, en parlant d'élevage aussi, il y a la dernière ligne droite pour le bétail, c'est-à-dire l'abattoir. Qu'en est-il, vous, sur ce positionnement avec l'association L214 qui dénonce la maltraitance et la cruauté à l'abattage ?
Il nous faudrait bien 2 heures d'entretien pour en parler. Clairement, on n'est pas sur la même ligne. Comment dire ? Le truc, c'est que le dialogue n'est pas évident parce qu'on ne part pas des mêmes, je pense, des mêmes constats ou des mêmes, du même regard sur la société, l'histoire de la société. Nous, je pense qu'on on se place dans une perspective
paysanne
et assez globale. C'est tellement facile de juste isoler la question de la mort des animaux à travers le seul espace de l'abattoir qui, même pour nous éleveurs, j'ai des agneaux tous les ans, même si je fais de l'élevage surtout pour la production de laine, mais aussi je fais des agneaux, et quand je les emmène à l'abattoir, c'est pas une partie de plaisir. Il n'y a personne qui est là en train de kiffer le truc d'emmener ses bêtes à l'abattoir. Ça fait partie des conditions aussi de notre travail et de la possibilité d'avoir de l'élevage. C'est quelque chose qui existe depuis la domestication des animaux. Et voilà, il faut le mettre en regard de tout le reste et de c'est quoi la place de l'élevage dans nos sociétés. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui, en France, on a l'impression que... Enfin, en tout cas, L214 veut donner l'impression qu'on pourrait se passer de l'élevage, qu'on pourrait se nourrir sans élevage, etc. Mais c'est oublier un tas d'éléments qui font que l'élevage, en tout cas selon nous, c'est toujours des questions de point de vue, mais selon nous, les sociétés paysannes, en tout cas, n'ont pas pu se passer de l'élevage jusqu'à aujourd'hui. Donc, faut pas oublier non plus pourquoi on en est là aujourd'hui. Il y a des raisons à ça, et que aujourd'hui non plus, si on veut avoir une société équilibrée, un rapport à notre environnement, y compris aux cultures végétales, c'est-à-dire que nous, les cultures végétales, il nous semble qu'elles ne peuvent pas se passer de ça. Et si aujourd'hui, on considère qu'on peut se passer de l'élevage, ça veut dire qu'on assume qu'on laisse une part aussi à l'industrie, aux produits chimiques, qu'on arrête de se vêtir avec de la laine, du cuir. Pourquoi pas ? Mais à ce moment-là, OK, on va le faire avec du plastique. Mais c'est des choix. Et nous, c'est un choix plus global. Et oui, c'est pas de gaieté de cœur qu'on fait abattre nos bêtes, mais ça fait partie de la vie de l'élevage. La mort fait partie de la vie de l'élevage et on l'assume. La question, c'est comment on fait pour que cette mort ait lieu dans des conditions qui soient les meilleures possibles, si on peut dire, en tout cas de non-souffrance et de non-stress des animaux et de respect de leur vie jusqu'à ce moment-là. Et c'est trop facile de stigmatiser comme ça. C'est des méthodes qui sont pas bien intéressantes d'un point de vue même d'un point de vue intellectuel, quoi. Au niveau de l'argumentation, c'est
Surtout que la méthode, ça consiste en fait à aller prélever des images dans des abattoirs qui travaillent avec l'industrie, des abattoirs d'une certaine taille, avec des fonctionnements qui parfois, même souvent, vont plutôt à l'encontre de ce que nous, on aimerait pour les conditions d'abattage des animaux dans le cadre de la Confédération paysanne. Et donc, plutôt que de jeter l'opprobre sur l'industrie, on jette l'opprobre sur l'élevage en général. Et du coup, on met tout le monde dans le même sac. Sachant que, par exemple, au niveau de la Confédération paysanne, ça fait quand même des années qu'il y a un travail, une réflexion, une lutte pour pouvoir avoir des abattoirs mobiles et effectuer de l'abattage à la ferme. Ce qui déjà enlèverait aux animaux le stress de se retrouver dans un transport, dans un lieu qu'ils ne connaissent pas, dans un lieu qui, au niveau des odeurs, leur évoque des choses, etc. Alors qu'avec une structure mobile d'abattage à la ferme, qui est actuellement en expérimentation, d'ailleurs, il me semble, Christophe, je crois qu'il y a quelques essais là. Ça pourrait être un progrès, une évolution l'évolution vers des conditions d'abattage beaucoup plus respectueuses.
Ou à minima, des petits abattoirs de proximité comme celui qu'on peut avoir à Dix, qui est quand même un des rares, un des derniers, et qui ont un intérêt réel. Et après, juste le dernier truc que je voulais rajouter par rapport à cette vision de l'élevage, c'est qu'à la conf, on s'inscrit aussi dans une vision plus large aussi que la seule vision française. C'est-à-dire que pour nous, on parle des paysans aussi à travers le monde, parce qu'on est tous liés rien que par les questions du commerce et de la production de nourriture, on est tous liés. On le voit bien, notamment le truc emblématique avec le soja. Et en fait, si on regarde ce qui se passe dans un tas de sociétés paysannes ailleurs dans le monde, la place de l'animal, elle se questionnerait même pas. C'est-à-dire que là, on se permet de se poser des questions parce qu'on est dans un pays dit riche, mais il y a un tas de pays dans lesquels la place de l'animal ne peut pas se questionner pour des questions de transport, des questions de se vêtir, des questions d'équilibre dans des territoires très fragiles. Et on le voit bien, les endroits où l'élevage disparaît, c'est parfois l'agriculture dans son ensemble qui est mise à mal. Donc voilà, si on s'en met la réflexion de manière un peu globale, on s'y retrouve pas trop avec L214.
Voilà, c'était juste une question par rapport... c'est vrai que je vous ai positionné sur quelque chose de délicat, mais c'était justement pour pouvoir mettre en évidence l'industrialisation avec le temps très imparti des salariés qui doivent opérer en urgence et certainement dans la folie, je pense, dans ce genre d'abattoir. Est-ce que vous, justement, en tant que paysan, il y aurait cette envie peut-être de se réapproprier cet élevage de bout en bout?
Dans la mesure du possible, oui. Moi, j'ai toujours vu mon grand-père tuer des volailles, tuer des lapins à la ferme. Bon, et puis il y avait des gens qui passaient à la ferme, qui achetaient un lapin, qui achetaient un poulet, un coq, même parfois une chèvre, et ça n'a jamais posé de problème à personne. Bon, il se trouve que l'évolution aidant, maintenant, il y a beaucoup de gens à qui je pense que ça pourrait poser problème, qui se diraient, est-ce que c'est bien sain, est-ce que c'est bien propre, est-ce que je ne vais pas tomber malade en mangeant ça? Il y a une grande évolution qui s'est faite ces 40, 50 dernières années dans la société. Il y a un grand éloignement d'une partie de la population par rapport à qu'est-ce que la production de nourriture, qu'est-ce que l'élevage, qu'est-ce que la viande, et en fait comment c'est produit, comment on les abat, et ensuite comment on les traite aussi après abattage. Il y a tout un tas de non-dits et de choses un peu cachées qui, à mon avis, sont quand même liées en partie au fait que les méthodes industrielles sont assez peu ragoûtantes, quoi. Et que si les gens étaient vraiment... Enfin, ils commencent à l'être de plus en plus, mais si les gens étaient vraiment informés de comment on ramasse les poulets dans des élevages de 50 000 avec une moissonneuse ou de choses comme ça, effectivement, peut-être que ça les amènerait à réfléchir un peu plus et à moins se demander quand, si moi, par exemple, je prends une poule, je la tue et je la vends à quelqu'un, ce que je n'ai pas le droit de faire, hein, actuellement, et ben, peut-être qu'ils se questionneront un peu plus sur le fait que pourquoi est-ce que moi, je n'ai pas le droit de tuer cette poule et de la revendre, et pourquoi quelqu'un a le droit de ramasser 10 000 poulets à l'heure dans un hangar où, quand les poulets ont été ramassés, en fait, il y a un tapis de poulets morts par-dessous. Et d'un point de vue de l'hygiène, ça les dérange moins parce qu'ils ne le savent pas, tout simplement. Alors qu'il n'y a pas de poule morte dans mon poulailler, hein, je peux vous garantir, quoi.
Ouais, par rapport à la maîtrise de bout en bout, là, comme tu dis, bon, on se pose toujours la question de l'abattage, qui est quand même assez particulière, mais en tout cas... Au plus, on a la maîtrise du maximum du cycle de l'élevage dès la reproduction, en fait. Au plus, on garde les paysans maîtres de leur travail et de leurs décisions, et du coup, à même de réfléchir à ce qu'ils font et de se sentir responsable de ce qu'ils font. Or, la tendance, elle a été de plus en plus à segmenter, mais ça se voit dans la... l'ensemble de l'agriculture, pas seulement dans l'élevage, mais dans plein de types d'élevage, il y a ceux qui sont naisseurs, il y a ceux qui sont engraisseurs, il y a ceux qui sont engraisseurs à un deuxième stade. Et forcément, quand on fonctionne comme ça, déjà, on a un rapport à l'animal qui n'est plus un rapport... on le voit plus sur l'ensemble de son cycle de vie, donc on n'a pas le même rapport aux animaux. On a moins un fonctionnement de troupeau qui s'installe aussi, qui est quelque chose d'important. On a plus cet œil... qui a conduit à la sélection de races adaptées à des espaces bien particuliers. C'est pour ça qu'on a énormément de races, parce qu'elles permettent de répondre à des besoins très différents liés au terroir. Et c'est ça, pour nous, c'est ça l'agriculture paysanne. C'est quelque chose qui est l'inverse de pratiques standardisées, parce que l'agriculture qu'on pratique et celle qu'on défend, elle est liée à des processus vivants et liée à une terre, un climat, un terroir, forcément, on a des systèmes d'élevage, on a autant de lieux que de systèmes d'élevage. Et nous, c'est plus ça qu'on va défendre. Et à partir du moment où on segmente les choses, on va du coup tomber forcément, on va finir par avoir une logique de... économique pure qui va primer, parce que c'est un peu la seule qui va rester, et donc on va aller vers des choses plus rentables, etc., et perdre ce truc qui fait qu'on a une richesse et du coup une qualité des produits, aussi une diminution des problèmes sanitaires. Donc oui à la maîtrise de l'élevage, quoi.
Et des gains écologiques aussi. Parce que il se trouve que moi, j'ai pas assez de terrain, j'ai pas l'équipement pour produire l'aliment intégralement pour mes poules. Il y a une toute petite partie en fait qui est produite par un de mes voisins, mais l'essentiel, c'est de l'aliment que j'achète à un producteur d'aliments. Et bon, quelque part, moi, si les céréales pouvaient venir du champ qui est à 3 km de chez moi, plutôt que de mon producteur d'aliments, j'en serais très très heureux, même si technologiquement je suis moins fort que lui pour faire un bon dosage d'aliments et avoir une ponte exceptionnelle au niveau de mes poules. Mais avec l'un dans l'autre, je m'y retrouverai. Donc l'élevage paysan, c'est aussi un élevage relocalisé qui n'a pas forcément besoin de camions qui font des centaines de kilomètres pour, ou même pire, hein, voire de cargos qui font des dizaines de milliers de kilomètres pour ramener de l'autre bout de la planète les protéines qu'on n'arrive pas à produire en suffisance en Europe. Et ça c'est le modèle qu'on défend aussi à la Confédération Paysanne. C'est un modèle écologiquement vertueux. Voilà.
Aux dernières élections de la Chambre d'agriculture, vous avez une représentation, hein, qui a été nommée.
Et oui, on a fait 80% de... oui, on a deux élus à la Chambre et une élue à la Chambre régionale.
Et est-ce que, pour l'instant, ça produit quelque chose ou alors vous êtes dans une minorité toujours ?
Au niveau de la Chambre d'agriculture, en fait, c'est un peu comme dans les mairies. C'est-à-dire que quand un ou plusieurs syndicats qui peuvent s'allier ont une majorité, ils ont la majorité, on leur donne la majorité suffisante pour qu'ils puissent prendre les décisions en autonomie. Après, ça n'empêche pas évidemment que de porter la voix de la Confédération paysanne au département, ça puisse parfois faire la différence sur certains sujets, qu'on puisse pointer du doigt certains abus, certaines pratiques. Et en plus de ça, ça permet aussi justement de rester au courant de comment les choses sont en train de se construire dans ce grand relais qui est la Chambre d'agriculture entre les paysans, l'industrie agroalimentaire, les producteurs de matériel agricole, de semences. Voilà, c'est donc un rôle important qu'ont nos deux représentants à la Chambre et à la région pour qu'on soit suffisamment au courant de ce qui se passe chez les autres syndicats, de ce qui se passe en interne à la Chambre d'agriculture, etc.
Et puis on va passer peut-être un peu à la détente, hein, en soirée, avec des concerts programmés.
Ouais, donc on a deux groupes. En première partie de soirée, des chansons avec Stonoluz. Donc c'est des chansons de différents coins du monde. Il y a aussi bien des chansons françaises que des chansons traditionnelles, des chansons africaines. Et en deuxième partie de soirée, la Sève, donc un groupe plus à danser, avec des inspirations en rumba congolaise, musique éthiopienne, que tout un tas de rythmes et de mélodies assez enlevées, on va dire, pour faire la fête, quoi.
Est-ce qu'il y a moyen de vous joindre ou de connaître un petit peu ce qui se passera pour ce samedi 7 septembre avec cette fête paysanne ?
Alors oui, il y a soit un numéro de téléphone au local de la conf, donc au 04 75 25 21 72, et sinon sur le site de la Confédération Paysanne Drôme, où là il y a les informations nécessaires.
Vincent et Christophe, je vous remercie tous les deux d'être venus nous parler de cette fête paysanne pour ce samedi, donc 7 septembre à partir de 14h.
Merci.
Et je vous souhaite une bonne soirée.
Merci.
Au revoir.